Que nous préparer à recevoir la parole du Seigneur, je voudrais demander à chacun de nous, avant de pouvoir attirer votre attention sur la parole de Dieu, je demandais à chacun de vous d'incliner sa tête dans la prière. Je voudrais que nous recevions sa parole tout en étant devant lui, tout en étant dans sa présence. C'est alors qu'en étant dans sa présence, eh bien, nous aurons cette capacité à recevoir et à comprendre sa parole, mais aussi nous aurons cette force dont nous avons besoin pour pouvoir mettre cette parole en pratique. Après avoir exprimé, Seigneur, nos sentiments, après avoir chanté ce merveilleux cantique, Seigneur, nous voici maintenant à tes pieds pour recevoir ta parole. Nous voici, Seigneur, devant toi, attendant que tu déposes dans nos cœurs ce qui vient de toi. Car nous savons, Seigneur, que ta parole est ta parole seule, reste et demeure la nourriture dont nos âmes ont besoin. Ta parole et ta parole seule nourrit notre foi et la fait croître, Seigneur, devant toi, nous rendant ainsi capables de pouvoir nous approprier des promesses de ta parole, mais également, Seigneur, capables de pouvoir marcher à ta suite. Merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, ô Dieu, à toutes ces prières qui sont montées de nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous aimer tant et de nous accorder autant d'occasions pour nous approcher de toi, Seigneur, et t'adorer, te louer. Car c'est lorsque nous sommes devant ta face, c'est lorsque nous sommes, Seigneur, en ta présence, que nous accomplissons notre raison d'être sur cette terre. Tu nous as créés pour ta seule gloire. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour que nous devenions, ô Dieu, des sacrificateurs dans ton royaume. Et lorsque, Seigneur, nous entrons dans ta présence, eh bien, tu nous donnes l'occasion de pouvoir assumer cette vocation des sacrificateurs. Merci pour tout. Parle-nous, fais-nous du bien. Pose ta main sur ton serviteur. Seigneur, donne-lui toute l'autorité dont il a besoin pour pouvoir proclamer ta parole. Seigneur, que cette parole soit accompagnée d'une démonstration d'esprit. Que ta parole soit, Seigneur, la bienvenue dans chacun de nous. Qu'elle puisse, ô Dieu, briser tout cœur qui serait dur comme du roc. Qu'elle brise, Seigneur, toute incrédulité et qu'elle nous permette de pouvoir, eh bien, nous ouvrir à toi, nous laissant ainsi remplir par ta présence et ta présence seule. Merci de bénir ta parole maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, bon appétit. À partir de ce dimanche, nous allons aborder un des grands thèmes de la Bible. Nous allons, en abordant ces thèmes, mes amis, nous diriger tout droit vers l'une des grandes vérités qui reste et demeure au cœur de toute action de Dieu dans tout l'univers et en particulier toute action de Dieu envers l'homme fait à son image, l'homme fait à sa ressemblance. Nous allons donc parler à partir d'aujourd'hui du Dieu de la grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que nous assistons hélas à un retour dans l'égalisme sournois, que certains pensent qu'il y a possibilité de négocier avec Dieu, de marchander avec lui, alors que certains pensent, à partir de certains enseignements qui sont véhiculés ça et là, qu'il y a moyen de faire quelque chose qui attirerait Dieu de manière quasi magique, pour l'amener à faire ce que nous aimerions qu'il fasse, alors que notre environnement, hélas, est de plus en plus oblitéré par ce genre de choses, il est plus que temps que nous revenions à l'enseignement fondamental de la parole de Dieu. Alléluia. Le Dieu de toute grâce. Et le texte qui va donc nous servir de méditation à ce thème est tiré du livre de l'Exode, au chapitre 34. Exode 34. Nous allons lire les 9 premiers versets. Nous lisons. Le Seigneur ou l'Éternel, c'est pareil. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur le premier table que tu as brisées. Sois prêt de bon matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voie personne sur toute la montagne. Et même que ni petit ni gros bétail ne pèse aux environs de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï comme le Seigneur le lui avait commandé. Et il prit à la main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant. Je voudrais que nous soyons maintenant sincères à ce que le Seigneur lui-même proclame. L'Éternel passa devant lui en proclamant. L'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils, sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide, tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. » Amen. Gloire au Seigneur. Le Dieu de toute grâce. Avec ce thème, comme je viens de le souligner avant la lecture de ce passage, avec ce thème, mes amis, nous allons au cœur de l'une des grandes vérités du Dieu de la Bible, une des grandes révélations du Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Avec ce thème, mes amis, nous abordons l'une des grandes révélations, celle qui est au cœur de toute action de Dieu dans tout l'univers, au cœur de toute action de Dieu, de ce Dieu qui est le planificateur et le créateur de toutes choses. Eh bien, au cœur de tout ce qu'il fait, au cœur de tout ce qu'il accomplit, nous trouvons cette vérité, à savoir la grâce. Et en particulier, à la base de tout ce qu'il fait pour l'homme, l'homme qu'il a fait à son image, à la base de tout cela, il y a donc, mes amis, cette grande révélation, à savoir grâce. Il s'agit de cette suprême grâce, de cette grâce qui amène Dieu, mes amis, à s'incliner vers nous et à nous manifester sa bienveillance, à nous manifester ses compassions inépuisables, à accomplir toutes sortes d'actes de bonté, à nous environner de sa miséricorde, voyez-vous, alors même que la seule chose que nous méritons, c'est d'être détruits, anéantis par sa colère. Nous devons donc, mes amis, savoir qu'à la base de tout ce que Dieu fait, et en particulier ce qu'il fait vis-à-vis de l'homme, il y a évidemment, l'amour de Dieu. Et la parole de Dieu est formelle, elle est catégorique. Elle le proclame de manière solennelle, Dieu est amour. Alléluia. C'est parce qu'il est amour qu'alors il peut nous manifester sa bienveillance. Il peut nous manifester sa miséricorde et sa compassion. Oui, la grâce de Dieu. Voilà une des vérités qui est de plus en plus oubliée aujourd'hui. Nous sommes hélas en train de regresser, de revenir à des choses que nous avions vomies autrefois. Des choses, mes amis, qui aujourd'hui, eh bien, transforment la grâce de Dieu en quelque chose qui se mérite. Ainsi, beaucoup d'hommes et de femmes se lancent à travers toutes sortes de bonnes œuvres, à travers toutes sortes de vies, de jeûnes et de prières. C'est une très très bonne chose. Et je vous encourage à exceller dans ce domaine-là. Mais cependant, je vous mets en garde. Cependant, je voudrais que chacun de nous le sache, que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de basculer dans cette religion qui attire plus l'attention des gens sur les mérites personnels que sur ce que Dieu est. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est le Dieu de toute grâce. Et le deux versets, je reviendrai là-dessus, à savoir le verset 6 et 7, est considéré, nous est présenté par la parole de Dieu comme étant la charte de la grâce et la base de toute alliance biblique. L'Éternel, le Dieu compatissant, l'Éternel, le Dieu plein de miséricorde. Gloire à Dieu. Comment ce Dieu nous manifeste-t-il sa bienveillance? Comment nous manifeste-t-il sa miséricorde? Eh bien, mes amis, sa bienveillance se manifeste tous azimuts. Voyez-vous? Lui, le Seigneur, qui est à la base de toutes ces conditions de viabilité et d'habitabilité qui rendent possible la vie sur cette terre. L'homme a besoin d'oxygène. Le Seigneur a tout prévu, n'est-ce pas? L'homme a besoin d'eau. Eh bien, le Seigneur a tout prévu. L'eau, la pluie, la chaleur, le soleil, la lumière, la nature qui nous entoure, mes amis. Plus que tout cela, le souffle de vie qui nous anime. Tout cela, eh bien, constitue la manifestation extraordinaire de la grâce du Dieu de la Bible. Il n'y a rien que nous avons fait ou que nous puissions faire qui puisse obliger Dieu à faire quoi que ce soit en notre faveur. Nous devons le comprendre, mes amis. Si vous êtes là ce matin, assis, très religieusement, mangeant sa parole, c'est tout simplement parce que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Beaucoup auraient aimé être là où vous êtes, mais hélas, voyez-vous, si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce que Dieu vous a accordé sa grâce. Voyez-vous, le Dieu de toute grâce. Oui, nous voyons sa grâce se manifester dans tout l'univers, d'une manière ou d'une autre. Regardez autour de nous, eh bien nous voyons sa grâce. Nous sentons sa grâce. Voyez-vous? Dieu, le Dieu de toute grâce. Et la venue du Seigneur, la venue de Jésus-Christ sur cette terre est le point culminant, l'apogée de la manifestation de cette grâce suprême du Créateur. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, eh bien, il a démontrer à l'humanité que la grâce de Dieu a enfin atteint son paroxysme. Car en venant sur cette terre, Dieu lui-même, par Jésus et au travers de Jésus-Christ, eh bien, nous a approchés afin de nous arracher du siècle présent, afin de nous libérer de l'esclavage par rapport au monde, par rapport au diable, afin de nous délivrer, mes amis, de la ruine et de la perdition qui plane sur cette humanité, de sa colère, suspendue sur l'humanité comme l'épée de Damoclès. Oui, par Jésus, au travers de Jésus, cette grâce a atteint son apogée, a atteint son paroxysme. En Jésus-Christ, le Dieu inaccessible est devenu accessible, alléluia. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, le Dieu invisible s'est rendu visible, mes amis. L'apôtre Jean qui a eu cette grâce de recevoir tant de mystères et qui nous a consignés dans un livre que nous appelons le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean qui a eu ce privilège et cette grâce d'être parmi ceux que le Seigneur avait choisis, nous a laissé cette déclaration dans son prologue, le prologue à son évangile, dans le premier chapitre, où il nous dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, il continue, a fait connaître, l'a dévoilé. Gloire au Seigneur. Par Jésus, au travers de Jésus, eh bien, nous voyons que cette grâce du Dieu de la Bible, eh bien, est devenue accessible pour l'homme. Gloire à Dieu. Il est donc important de savoir, frères et sœurs, que Jésus de Nazareth, le Seigneur de gloire, est donc la manifestation suprême de cette grâce du Dieu invisible, du Dieu qui a créé toutes choses par sa seule volonté et pour son seul plaisir. Dieu n'a pas été contraint, mes amis, à créer l'homme pour qu'il ait au moins quelqu'un à aimer. Pas du tout. Avant la création de l'homme, Dieu est. Après la création de l'homme, Dieu est. Et après que l'homme aura quitté cette terre, lorsque le Seigneur aura tout détruit et que l'homme sera passé dans l'éternité, Dieu est. Donc la création de l'homme n'a rien changé quant à Dieu. Voyez-vous, mes amis, il ne l'a pas créé parce qu'il aurait été en manque d'amour, en manque d'affection. Il lui fallait absolument quelqu'un qui puisse l'aimer. Non, le Fils, le Père, le Saint-Esprit s'aiment de toute éternité. Gloire à Dieu. Paul, écrivant à Tite, a dit ceci par rapport au Christ. Il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce qui a été manifestée et qui est source de salut pour tout homme, source de bénédiction pour tout homme, cette grâce-là, cette manifestation suprême de cette grâce, eh bien, est une personne, à savoir Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Avant de poursuivre avec notre thème, j'aimerais souligner à ce stade une erreur, mes amis, d'interprétation, et qui a fini par acquérir un statut quasi doctrinal dans certains milieux, même évangéliques, une erreur qui est défendue avec beaucoup de passion, qui est promue par beaucoup de prédicateurs et d'autres enseignants d'écoles bibliques. Quelle est cette erreur? En quoi consiste-t-elle? Eh bien, cette erreur consiste à faire une sorte de dichotomie, une sorte de division par rapport au Dieu de la Bible, en disant que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi. Et le Dieu qui agit dans le Nouveau Testament est le Dieu de la... Vous avez peut-être entendu cela, mais c'est une hérésie que nous devons combattre absolument. Dieu est le même dans l'Ancien Testament. Dieu est le même dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Il est le même. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Lorsque nous y amorçons, mes amis, nous amorçons un pèlerinage objectif à travers les Saintes Écritures, nous ne pouvons nous rendre compte que d'une seule vérité. C'est que Dieu qui agit dans l'Ancien Testament, il a agi par grâce. Et le Dieu qui agit dans le Nouveau Testament agit par grâce. Oh, alléluia. Il se révèle comme étant le Dieu de toute grâce. Aucun homme, à travers toute l'histoire de l'humanité, a mérité quoi que ce soit, si ce n'est le jugement. Depuis les premières pages de la Bible, jusque, mes amis, à la dernière page de la Bible, il est question de Dieu comme étant le Dieu de toute grâce. Voyez-vous, nous allons le voir. Dans les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, qui ouvre la révélation écrite au monde,
Eh bien, nous voyons déjà la manifestation de la grâce de Dieu dans le jardin d'Éden. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, tout au long de l'histoire des patriarches, tout au long de l'histoire d'Israël, tout au long, mes amis, du Nouveau Testament, ce Dieu se manifeste comme étant le Dieu de toute grâce. Et la Bible se clôt par ce verset extraordinaire d'Apocalypse, chapitre 22, verset 21, qui nous dit ceci, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Elle commence par la grâce, cette révélation. Elle se poursuit par la grâce et elle se termine aussi par gloire à Dieu. Depuis Adam et Ève, nos ancêtres, en passant par Enoch, par Noé, voyez-vous, en passant par Moïse, par Josué, par David, jusqu'à l'époque des apôtres, le Seigneur s'est toujours manifesté comme le Dieu de toute grâce. Et tous, depuis Adam et Ève, jusqu'aux saints apôtres, mes amis, eux tous ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Personne ne pouvait se tenir devant Dieu en se frappant la poitrine, en raidissant sa nuque, en disant, tu vois, t'as vu comment je marche? T'as vu le nombre de jours de jeûne, de prière? T'as vu comment je me réveille tous les jours à 4 heures du matin? Et le nombre d'heures que je passe avec toi? T'as vu tout ça? Mais tu es en droit de me bénir. Non. Si telle est la conception que vous avez du Dieu de la Bible, je voudrais vous encourager à vous en débarrasser. Car vouloir avoir de telles attitudes, ou avoir même ce genre d'attitudes, c'est insulter le Dieu de la Bible. C'est l'offenser. Depuis donc Adam, et avec tous les patriarches, jusque dans le Nouveau Testament, il n'y a eu rien, mais alors rien dans chacune de ces personnes qui eut séduit Dieu ou charmé Dieu au point de l'attirer vers ces gens-là afin qu'ils les bénissent. Rien. Il n'y avait rien. Rien de séduisant. Rien de charmant. Voyez-vous, auprès de ces gens-là qui est amené le Seigneur à intervenir, à s'incliner vers eux, à se pencher vers eux pour rencontrer leurs besoins, quels qu'ils soient. Rien, mes amis, rien. Car la Bible est formelle. Tous, absolument tous, ont péché et sont privés de la gloire, même nos ancêtres, Adam et Ève, ont été les premiers d'ailleurs à pécher. Et depuis cette époque-là, tous conçus dans le péché, tous nés dans le péché, tous ayant vécu dans le péché, et par conséquent, tous privés de sa présence, privés de sa gloire. Mais la Bible ne s'arrête pas là seulement à faire le constat que tout le monde est privé de la présence de Dieu, parce que tout le monde est un pécheur. Dieu n'a pas mis un point. Et c'est l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, qui nous amène, mes amis, ce complément des révélations en disant, « Mais ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Oh, alléluia. Tous, même les patriarches, ils sont morts en ayant la foi qu'un jour le Messie viendrait. Oh, alléluia. Ils ont regardé à la croix comme un événement futur. D'autres ont regardé à la croix comme un événement présent. Et nous regardons à la croix comme un événement passé. Mais tous au bénéfice de la croix. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Tous, sans exception aucune, dans le même panier, dans le même sac, celui du péché. Et aussi tous logés à la même enseigne, celle de la grâce. Tous pécheurs, mais tous bénéficiant de la grâce du Seigneur. Oui, comme je le disais, dès les premières pages de la Bible, nous voyons la grâce de Dieu se manifester. Et tout au long de la Bible, et jusqu'à la fin, nous voyons encore cette grâce. Revenons à notre passage d'Exode 34. Et les versets qui vont nous préoccuper davantage sont les versets 6 et 7. Comme je vous ai dit, ces versets sont considérés comme étant la base de ce que nous pourrions appeler la charte de l'Alliance. Il y a donc dans ce passage, ces deux versets, le verset 6 et 7, qui exaltent les attributs de miséricorde, de compassion, de pitié, attributs qui sont à la base, mes amis, de l'alliance de Dieu à travers toute la révélation biblique. Là où vous voyez que Dieu a conclu une alliance, que ce soit avec Noé, que ce soit avec Abraham, que ce soit avec le peuple d'Israël, eh bien, mes amis, nous trouvons cette vérité-là, nous trouvons ces attributs-là comme base de la démarche de Dieu pour conclure une alliance avec un individu ou avec un peuple. Gloire au Seigneur. Et ces deux passages, le texte constitué par deux versets, comme je le disais, ce texte-là est véritablement dans l'Ancien Testament, la charte de la grâce du Dieu de la Bible. Alléluia. Moïse a eu à proclamer beaucoup de choses qu'il avait reçues de la part du Seigneur. Et dans ce passage, le Seigneur lui-même proclame des choses qui le concernent. Le Seigneur passa devant lui, devant Moïse, en proclamant le Seigneur, Dieu compatissant et qui fait grâce. Oh, alléluia. Là, la colère, il chante bienveillant. Voilà le Dieu de la Bible. C'est le même dans l'Ancien Testament. C'est le même dans le Nouveau Testament. C'est le même de toute éternité. C'est ce Dieu-là, mes amis, qui un jour nous a attirés à lui. Non pas parce que nous aurions fait quelque chose d'extraordinaire. Non. Non. Tout simplement parce que c'est un Dieu qui est rempli de grâce, qui est rempli de miséricorde, qui est rempli de compassion envers chacun de nous. Voyez? Et pour mieux comprendre cette notion de la grâce dans l'Ancien Testament, eh bien nous n'avons d'autre choix que de nous tourner vers le terme ou le mot que l'hébreu utilise et qui a été traduit dans nos versions françaises, tantôt par grâce évidemment, tantôt par pitié, tantôt par faveur, tantôt par compassion. Voyez-vous, si nous pouvons voir le sens physique, matériel de ce mot, et en même temps le sens moral, cela pourra nous aider à mieux comprendre, mes amis, ce qui est au cœur de la démarche de Dieu vis-à-vis de tout homme, quel qu'il soit. Non seulement vis-à-vis de ceux qui lui appartiennent en Christ, mais aussi vis-à-vis de l'humanité, car tout homme, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, tout homme reste une créature faite par Jésus de Nazareth. Voyez-vous ? C'est par lui, nous dit la parole, c'est par lui, c'est de lui et pour lui que sont toutes choses, y compris l'homme. Ce terme, eh bien, signifie où qu'on trouve, pour ceux qui, parce que je sais qu'il y a des gens qui font les langues bibliques, le renne, enfin c'est un son guttural, hein, il faut avoir une bonne gorge, renne, voyez-vous? Eh bien, c'est ce mot qu'on trouve, j'en ai touché un mot, dans le nom de Jean, Yohanan, qui veut dire Yahvé ou Yah fait grâce. C'est ce mot-là, reine. Yohanan,
que nous avons traduit par Jean ou alors Yohan, voyez-vous.
C'est ce mot qui veut dire âne. Âne veut dire grâce. Rana, en hébreu, rana, grâce. C'est ce mot-là, mes amis, qui est traduit tantôt par pitié, condescendance, tantôt par faveur. Et le sens physique, eh bien, c'est celui de se pencher, c'est celui de s'incliner. Oh, alléluia. Et derrière ce mouvement d'inclinaison, derrière ce mouvement de se pencher vers quelqu'un, eh bien, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a la compassion, il y a la bienveillance, il y a la bonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, mes amis, comment nous pouvons comprendre ce qui se passe au niveau de la personne de Dieu. Pour mieux comprendre cela, je voudrais que nous prenions quelques exemples, car aujourd'hui, nous n'allons qu'introduire ce thème-là. Quelques exemples de la manifestation de la grâce de Dieu. Commençons avec le commencement, avec le livre de la Genèse, avec Adam et Ève. Nous connaissons tous l'histoire. Dieu leur avait donné des commandements. Avant, Dieu, eh bien, il ne s'est pas réveillé en disant, mais tiens, je dois créer quelqu'un qui me ressemble à tout ça. Il n'agit pas de cette manière. Voyez-vous, il fait toute chose bonne en son temps. Il crée l'homme, la femme, il leur donne le libre arbitre. Il les place dans un environnement extraordinaire. Par amour pour Ève, par amour pour Adam, Dieu descend dans ce jardin, dans ces milieux, pour communier avec eux. Alléluia. Car il les avait créés pour lui et pour lui seul. Il leur a donné le pouvoir, l'autorité, la domination sur la création, sur le règne animal, minéral, etc. Mais pour que ces gens puissent être véritablement à l'image de Dieu, il les a dotés du libre arbitre. Voyez. Vous savez, si vous, un homme et une femme, se retrouvaient sur une île, seuls, ben, la femme n'a pas d'autre choix devant elle que l'homme qui est là. Oui ou non? L'homme aussi n'a pas d'autre choix que la femme qui est là. Eh bien, c'est difficile de parler d'amour, hein. Vous savez ça? Oui. Mais comment veux-tu parler même de séduire, parce qu'il n'y a qu'elle? Voilà. Même de le charmer, il n'y a que lui. Ouais. Maintenant, quand vous vous retrouvez à plusieurs, à ce moment-là, vous avez le choix. Vous pouvez exercer votre libre arbitre. Et quand vous allez vous tourner vers une, si vous êtes vraiment sincère, si vous avez un cœur limpide, quand vous allez vous tourner vers une, ça sera pour l'aimer. Et elle pourra se dire oui elle-même, parce qu'il a eu plusieurs choix. Et parmi toutes ses filles, c'est sur moi qu'il a jeté son dévolu. Eh bien, l'homme et la femme ont été dotés de ce libre arbitre. Ils devaient choisir. Et pour les aider, le Seigneur leur a donné sa parole. Vous pouvez faire de tout, mais seulement ceci, ne le faites jamais. Parce que le jour où vous le ferez, eh bien, vous subirez le châtiment. Et hélas, vous connaissez l'histoire, le diable est passé par là, il a fini par les influencer, par les séduire. C'est ainsi que l'homme et la femme, librement, sous l'influence du diable, après avoir été, manipulés par le diable, séduits par le diable, eh bien, ils ont fini par enfreindre la loi de Dieu. Ils ont fini par transgresser sa parole. Et résultat, à partir de ce moment-là, beaucoup de choses vont se passer. Puisqu'ils ont choisi pour le diable, eh bien, il va y avoir des conséquences. Et Dieu ne les a pas laissés assumer ces conséquences. Dieu n'a pas laissé sa colère éclater tout de suite. Dieu ne les a pas bannis en disant « c'est fini, J'ai détruit toute l'humanité. D'ailleurs, il n'était qu'à deux. Et tout s'arrête là. Et c'est là que nous voyons la première manifestation de la grâce de Dieu. Dieu qui s'incline. Dieu qui se penche vers Adam et Ève. Voyez-vous? Pour leur faire prendre conscience qu'ils viennent de commettre quelque chose de terrible. Pour leur faire prendre conscience du nouvel état dans lequel ils se trouvent désormais, ainsi que de ses conséquences terribles et affreuses. C'est-à-dire désormais. Désormais, ils sont privés de sa présence. Désormais, il n'y a plus de communion avec lui. Désormais, la culpabilité, eh bien, ronge leur cœur. Désormais, ils ne peuvent plus voir, contempler sa gloire. Ils sont coupables. Désormais, quelqu'un d'autre occupe la première place dans leur cœur. C'est le moi. Voyez-vous? Avec le concours du diable. Puisque le diable leur a dit, oui, non, Dieu n'a jamais dit ça. Il sait ceci. Moi, je vais vous dire. Il sait que le jour où vous ferez ça, vous deviendrez comme... Et croyez-moi, depuis... Le diable a toujours fait croire à l'homme qu'il peut sodomiser et vivre sans Dieu, réussir, accomplir sa raison d'être, sans que le Créateur ait à intervenir d'une manière ou d'une autre. Et encore aujourd'hui, il agit de la même manière. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un documentaire, vous savez, avec les progrès dans quasiment toutes les disciplines scientifiques, eh bien, les hommes sont arrivés à un point où ils parlent de l'homme-Dieu. Voilà. Il y avait là des scientifiques qui se posaient la question de savoir si dans quelques années, l'homme ne deviendrait pas Dieu. Voyez, capable d'atteindre l'immortalité, capable de résoudre tous les problèmes seulement avec son intelligence, seulement avec les progrès de la science, etc. Eh bien, c'est la même ruse que le diable a toujours utilisée. Ils sont séparés de Dieu. Ils sont sous sa colère. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est d'abord la mort spirituelle. Cette séparation de l'âme d'avec son Créateur. Et sur le plan spirituel, ils sont morts. Voyez-vous, mes amis? Et puis ensuite viendra, du moins pour Adam et Ève, la mort physique. Le Seigneur se penche vers eux pour leur faire comprendre ou leur faire prendre conscience du besoin de se réconcilier avec lui. Voyez-vous? Du besoin de revenir. Car avant ça, ils ont essayé par leurs propres efforts de résoudre la problématique du péché. Voyez-vous? Ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir et cacher leur nudité. Mais cela n'a pas suffi. Voyez? Le Seigneur se penche vers eux pour leur montrer le chemin de la réconciliation. Il leur annonce donc la bonne nouvelle concernant leur salut, concernant leur réconciliation. Il leur annonce, il leur donne, mes amis, le moyen, ou il leur montre le moyen par lequel ils devaient désormais revenir à lui et se réconcilier avec lui. C'est là que commence la notion de l'espérance messianique, Genèse 3:15. La descendance de la femme, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Voyez-vous? Et l'homme et la femme, j'ai déjà eu à parler de tout ça. L'homme et la femme entendent, pour la toute première fois, alors qu'ils sont sous la culpabilité, alors que le jugement de Dieu est là, la condamnation est là, alors qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils sont désormais sous l'emprise de Satan. Ils entendent Dieu dire, quelqu'un qui descendra de la femme, et celui qui leur apportera la délivrance, et celui qui leur apportera la libération. En d'autres mots, c'est celui qui les sauvera. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout va tourner autour de l'espérance messianique, de la venue de quelqu'un, d'une personne qui allait payer le prix pour qu'enfin l'homme rebelle, l'homme désobéissant, l'homme sous la colère de Dieu, puisse enfin avoir l'occasion, la possibilité de se réconcilier avec son Créateur. Et ce libérateur n'est autre que le Messie. Oh, alléluia. En d'autres mots, le Seigneur montre à l'homme et à la femme que c'est le Messie qui est l'antidote au péché, la solution, l'unique, la seule, à leur état de culpabilité, d'esclavage, à leur état de mort spirituelle. Il ne leur a pas donné une religion, mais il leur a donné une promesse relative à une personne, Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la question qu'on pourrait se poser, dites-moi, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait pour qu'enfin Dieu s'incline vers eux, qu'il les cherche, qu'il leur fasse prendre conscience de l'état dans lequel ils se trouvaient, qu'il leur fasse prendre conscience du besoin de s'en sortir, qu'ont-ils fait de spécial? Y a-t-il eu quelque chose auprès d'eux qui aurait charmé Dieu, qui aurait séduit Dieu et ensuite l'aurait attiré vers eux? Ont-ils jeûné pendant 100 jours? Je vous pose la question. Qu'ont-ils fait de spécial? Rien. Absolument rien. Dieu se penche vers eux, simplement par pure grâce. Dieu se tourne vers eux, simplement parce que c'est lui qui les a créés à son image. Et par amour pour eux, rempli de compassion, il n'a pas voulu les laisser dans cet état et condamner pour l'éternité l'humanité à errer loin de lui et à subir un jour les affres de sa colère. Non, il s'est incliné vers eux. Il s'est penché vers eux pour leur faire prendre conscience de l'état terrible dans lequel ils se trouvaient. Il aurait pu se dire, très bien, je vous avais mis en garde, n'est-ce pas? Vous aviez tout dans cet endroit paradisiaque. Vous aviez tout. Je vous ai donné l'autorité, la domination. Je vous ai tout donné. Et vous avez méprisé ma parole. Maintenant, débrouillez-vous. Il ne l'a pas fait. L'Éternel, le Dieu compatissant, lent à la colère, mais riche en... Tu es peut-être sous une culpabilité. Vous voyez, et souvent ça arrive. Lorsque quelqu'un pêche, l'ennemi le culpabilise. Et l'ennemi essaye par tous les moyens à lui injecter des pensées du genre, retire-toi, va jeûner pendant 3 jours, demande pardon, dors par terre, et Dieu te pardonnera. Vous voyez? Non. Vous pouvez dormir toute votre vie par terre. Ce n'est pas ça qui forcerait Dieu à vous pardonner. Vous pouvez pleurer toute votre vie. Ce ne sont pas vos larmes qui obligeraient Dieu à venir à votre rencontre. S'il s'incline vers vous, c'est parce qu'il a un cœur de père. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est ainsi que le diable arrive à nous avoir. Il t'isole. Tu vois, t'as péché. Qu'est-ce que tu vas encore chercher à l'église? Tu es indigne. Reste chez toi. Pleure. Jeûne. Ben, c'est pas parce que tu auras jeûné que Dieu t'aura pardonné. Il est juste et fidèle pour pardonner nos péchés. Lorsque nous les lui confessons et que nous implorons sa grâce en Jésus. Dieu nous pardonne, mes amis, en vertu de l'œuvre de la grâce, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Ce n'est pas parce que tu as pleuré, oui, on pleure parce qu'on a fait mal à celui qui nous aime, mais ce ne sont pas les larmes qui vont obliger Dieu à te pardonner. Il te pardonne parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Il te pardonne parce qu'il est amour. Il te pardonne parce qu'il est plein de compassion. C'est donc son amour, c'est donc une manifestation de la grâce que nous voyons là avec Adam et Ève. Dès les premières pages de la Bible, nous voyons que le Seigneur se manifeste déjà vis-à-vis de l'homme pécheur, vis-à-vis de la femme qui a tourné le dos au Créateur. Dieu se manifeste comme étant le Dieu de toute grâce. Il a choisi, non pas sur contrainte de qui que ce soit, non, il a choisi délibérément, il a choisi simplement, mu par une compassion extraordinaire. Il a choisi d'approcher l'homme et la femme par pure grâce, alors que les deux méritaient son jugement et sa condamnation. En d'autres mots, Adam et Ève ont simplement trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. La démarche de Dieu a été motivée par l'amour. L'amour qu'il a toujours eu, mes amis, envers l'homme. L'homme qu'il a fait à l'image de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, ne méprisez personne. Voyez-vous, si tu es quelqu'un aujourd'hui, si Dieu t'a épargné d'une vie dissolue, parce que tu as évolué dans une famille où tu as reçu une bonne éducation, eh bien, là aussi, c'est une grâce. On a vu des enfants naître dans des familles remplies du Saint-Esprit. On a vu des enfants aller à l'école des dimanches, et puis un jour, devenir satanistes. Eh oui. J'ai suivi le témoignage d'un très engagé aujourd'hui dans le satanisme. Il avait été à l'école des dimanches. Lui aussi avait chanté Alléluia. Tout n'est que grâce. Oh Alléluia. Tout n'est que grâce. Personne ne mérite quoi que ce soit, si ce n'est le jugement et la condamnation de Dieu. Si je vous parle ce matin, ce n'est pas parce que j'aurais fait quelque chose de spécial. Non, c'est simplement une grâce qu'il m'a faite. Gloire au Seigneur, Alléluia. Si vous pouvez faire quoi que ce soit, même en dehors de l'Église, c'est simplement une grâce qu'il vous a accordée. Oui, certes, vous pouvez dire, oui, mais c'est par mon intelligence que je suis arrivé à décrocher autant de diplômes. Mais qui t'a protégé contre tel ou tel autre virus ? Contre telle ou telle autre bactérie, combien ont été emportés par un petit microbe de rien du tout. Voyez, on en parlait encore avec mon fils qui est là. Une fille qui était dans leur école en humanité, très intelligente. Elle a terminé ses humanités. Elle s'est lancée dans les études vétérinaires. Voyez, mais elle n'a jamais eu l'occasion de les terminer. Lors d'une bleusaille, d'une brimade, vous savez, ce qu'on fait subir aux étudiants, je ne sais pas ce qu'on lui a fait boire, toujours est-il qu'elle a chopé une bactérie mortelle qui l'a emportée en quelques jours, si peu de jours, cette belle fille. Je revois encore son visage, parce que je connaissais sa maman. Son papa étant d'origine camerounaise et sa mère belge. Je la voyais, très belle fille métisse, très intelligente, voyez, mais elle est partie, la grâce. Combien sont passés du sein de leur mère, directement dans le sein de la terre, des avortons. Mais toi, tu as trouvé des genoux pour t'accueillir au jour de ta naissance. Mais toi, tu as eu même l'occasion de naître dans une maternité. Alors que d'autres sont nés en brousse et n'ont pas survécu. Qu'as-tu fait de spécial? Qu'est-ce que ta maman a fait de spécial? Rien! La bonté du Dieu vivant. Mes amis, tout n'est que grâce. Nous avons parlé d'Adam et Ève. Le temps avance, il faut terminer. Nous pouvons parler de Noé. Avant de détruire le monde par le déluge, la parole de Dieu nous dit dans Genèse, chapitre 6, verset 8, « Et Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » Vous voyez, mes amis, il obtint la faveur de la part du Seigneur. S'il se retrouvait dans cette arche, avec sa petite famille, C'est simplement une faveur qu'il a reçue de la part du Seigneur.
Alléluia.
Abraham, c'est la même chose, mes amis. Quand il fait des spéciales pour être choisi par le Seigneur, certes, il vivait en Chaldée, dans un environnement marqué par le polythéisme, dans un environnement qui dégageait une odeur nauséabonde sur le plan religieux, parmi des gens et dans une culture qui n'avait rien à cirer avec le Seigneur. Lui, il est resté monothéiste. Il a continué à croire dans ce Dieu-là. Mais Dieu l'a appelé simplement par grâce. Il l'a amené dans cette terre. Il lui a fait la promesse de donner cette terre à ses descendants par grâce. Isaac plus tard, Jacob, mes amis, et puis les 12 tribus, le peuple d'Israël, les prophètes David, tous ont été au bénéfice de la grâce du Seigneur. Alléluia. Et je terminerai par une figure du Nouveau Testament qui, elle aussi, a fait l'objet d'une grâce particulière de la part du Seigneur. Il s'agit de Marie, de cette jeune fille qui craignait Dieu, qui menait une vie de piété, qui craignait Dieu et qui savait qu'il ne pouvait pas coucher avec un homme tant qu'il n'était pas, elle n'était pas mariée avec. Cette femme, la Bible nous dit, ou cette jeune fille, un jour elle reçoit l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, alors qu'elle vivait à Nazareth, en Galilée. Lorsque l'ange entre chez elle, il lui dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Oh, » Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Cette jeune fille tremble. Cette jeune fille panique. Elle est dépassée par ce qu'elle entend. Et l'ange d'ajouter, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » L'ange insiste. Voyez-vous, il n'y a pas eu un mérite quelconque auprès de Marie qui aurait forcé le Seigneur à la choisir pour porter son fils. Rien n'en déplaise à certains. Voyez-vous, elle-même va reconnaître qu'elle a fait l'objet d'une grâce particulière. Le Seigneur l'a choisi. Non pas parce qu'elle le méritait, mais elle l'a choisi par pure grâce, alléluia, pour être celle qui allait porter le Messie. Le Messie qui, en venant, allait sauver l'humanité par sa mort à la croix de Golgotha. Ce Messie, salut pour tous les peuples, lumière des nations, gloire d'Israël. Pour son incarnation, eh bien, il fallait une femme, certes pieuse. Certes, craignant Dieu. Mais pensez-vous qu'en Israël, elle était la seule? Non. Puisqu'elle-même reconnaît que c'est une grâce. Et aujourd'hui, on en fait toute une déesse dans certains milieux. Voyez-vous, la Bible nous révèle pour terminer le Dieu de la grâce. Le Dieu qui se manifeste simplement parce qu'il nous aime. Le Dieu qui est là pour nous. Tous les apôtres ont insisté là-dessus, sur ce Dieu qui n'est que grâce. Gloire à Dieu, alléluia. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Alors je voudrais, mon frère et ma sœur, te donner l'occasion, maintenant, d'incliner ta tête et de réaliser tout ton parcours, de réaliser qui tu es maintenant et d'arriver à la conclusion que ce que tu es, même si tu as eu à fournir beaucoup d'efforts, même si tu as eu à faire ceci ou cela, ce que tu es n'est que le produit de la grâce du Seigneur. Et puisque c'est le produit de la grâce du Seigneur, eh bien, commence à lui dire merci. Commence à lui rendre grâce. Dis-lui, Seigneur, merci pour le salut que j'ai expérimenté. Je n'ai rien fait de spécial, mais un jour tu m'as attiré à toi. Un jour tu m'as fait prendre conscience que j'étais coupable, que j'étais sur le chemin de la destruction. Tu m'as arrêté sur cette pente mortifère. Tu m'as amené à toi. Tu m'as lavé, tu m'as purifié. Tu m'as débarrassé d'une vie terrible, d'une vie d'idolâtrie, d'une vie d'immoralité, d'une vie de toutes sortes d'excès, pour faire de moi une nouvelle créature. Seigneur, merci. La bonne santé dont tu jouis, le travail que tu as, les études que tu fais, le souffle de vie qui t'anime, les enfants que tu as, le mari ou l'épouse que tu as, tout cela est la manifestation de la grâce du Dieu de la Bible. Alors dis-lui merci. Oh, alléluia. Oh, merci. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Les responsabilités que tu as, les affaires que tu fais, la famille que tu as et qui t'aime, tout cela n'est pas le fait d'un quelconque hasard, mais c'est la manifestation de la grâce suprême du Dieu de la Bible. Alors ne reste pas ingrat. Manifeste-lui ta reconnaissance en lui disant merci. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ta parole. Combien nous avons besoin de ta grâce. Tout ce que nous sommes, Seigneur, est le produit de ta grâce. Il n'y a rien que nous avons fait, Seigneur. Il n'y a rien en nous qui a pu t'attirer d'une manière ou d'une autre. Tu t'es incliné vers chacun de nous. Tu t'es penché vers nous, Seigneur. Et ce, malgré une vie de rebelle, une vie marquée par la rébellion et l'idolâtrie. Tu t'es penché vers nous. Et ce, malgré une vie, Seigneur, terrible, pour nous faire grâce, pour nous pardonner, pour restaurer nos vies, pour nous remplir d'espérance, pour faire de nous ce que nous sommes, oh Dieu. Merci. Avec toi, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Merci de nous aider à t'adorer en sachant qu'avec toi, tout n'est que grâce. Aide-nous à marcher avec toi en nous appuyant sur toi et non sur nos mérites, quels qu'ils soient. Aide-nous, Seigneur, à croire en toi et en toi seul. Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse, Seigneur, te séduire et t'attirer vers nous. Non! Non! Avant même que nous nous tournions vers toi, tu t'étais déjà incliné vers nous dans la personne de Jésus. Tu t'étais déjà approché de nous au travers du Christ. Alors aide-nous en retour à te manifester cette reconnaissance tous les jours de notre vie. Merci Seigneur. Merci aussi au Dieu pour ce moment que nous aimerions te consacrer.